Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, connaissez-vous l'ostéopathie ? Cette discipline se propose de diagnostiquer et de soigner différents troubles, des troubles musculaires et osseux aux troubles génito-urinaires, en pratiquant des manipulations vertébrales et parfois crâniennes. Les ostéopathes décrivent cette discipline comme étant une science, un art, une philosophie. Née à la fin du 19e siècle, cette discipline, l'ostéopathie donc, est devenue très utilisée en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. En France, actuellement, on ne compte pas moins de 5000 ostéopathes, dont la plupart sont médecins généralistes, kinésithérapeutes. Certains, en revanche, n'ont que le titre d'ostéopathe, sans pour autant avoir eu de formation médicale approfondie. Un décret devrait entrer en vigueur. Ce décret se fait attendre, et ce décret donc vise à ce que les ostéopathes puissent réaliser des manipulations sans prescription médicale préalable et sans diagnostic. Le Conseil de l'Ordre national des médecins ainsi que l'Académie nationale de médecine s'est manifesté contre ce décret qui aujourd'hui n'a toujours pas vu le jour, hein, précisons-le. L'occasion donc dans cette émission de faire le point sur ce qu'est l'ostéopathie, pourquoi cette discipline semble-t-elle aussi décriée par les médecins alors qu'elle est pourtant enseignée dans 14 universités. Et puis cette médecine est quand même reconnue dans d'autres pays, alors pourquoi la France fait une levée de bouclier ? Pour en parler avec nous, Joël Menkès est avec nous en studio. Joël Menkès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien chef de service en rhumatologie à l'hôpital Cochin, professeur émérite à l'université Paris 5 et fondateur de OARCI, Association internationale pour l'étude de l'arthrose. C'était en 1990 et vous êtes bien sûr membre de l'Académie nationale de médecine. Alors vous avez participé à un rapport au sein de l'Académie nationale de médecine qui critique ce décret. Donc vous allez pouvoir nous en parler en détail. Vous nous donnez vos arguments dans quelques minutes. Auparavant, peut-être que nous pourrions commencer par faire un petit point de vocabulaire, puisque pour nous, ce n'est pas forcément très clair pour faire la différence entre ostéopathie, mais également chiropraxie, kinésithérapie, et puis votre discipline, la rhumatologie. Joël Menkès.
Alors tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation. C'est un très grand plaisir de venir dans cette radio prestigieuse. Effectivement, l'Académie de médecine a été saisie par le ministère de la Santé d'une demande d'avis sur l'ostéopathie, compte tenu d'un projet de décret faisant suite à la loi de 2002, reconnaissant l'exercice de l'ostéopathie et de la chiropraxie. Alors, l'Académie a donc fait un rapport. Il y avait un groupe de travail présidé par le professeur Louis Auquier. Je faisais partie de ce groupe de travail, le rapporteur donc Louis Auquier, et il y avait également le professeur Kremer, le professeur Malvy qui est un chirurgien, et le professeur Nicolas qui s'occupe de santé publique. Alors, ce rapport a essayé de faire le point sur l'ostéopathie. Effectivement, on se demande toujours qu'est-ce que l'ostéopathie, on se demande même qu'est-ce que la rhumatologie. Je commencerai par ma spécialité.
La rhumatologie, donc.
La rhumatologie. Je crois que les rhumatologues sont de grandes victimes du nom de rhumatologie.
Ah.
Parce que personne ne sait exactement ce qu'est la rhumatologie.
Alors dites-nous deux mots sur la rhumatologie.
Alors, en fait, c'est une spécialité médicale qui est proche de la médecine interne, mais qui s'intéresse surtout aux maladies de l'appareil locomoteur,
les articulations,
les muscles, les os et la colonne vertébrale. Mais il n'y a pas que ça, il y a également les maladies inflammatoires, ce qu'on appelle la pathologie auto-immune, c'est-à-dire toutes les maladies qui sont déclenchées par des réactions de l'organisme à son propre constituant. C'est ce qu'on appelle des maladies systémiques. Par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui dérègle l'ensemble de l'organisme. Donc c'est quelque chose de très étendu, mais qui finalement se résume à une chose assez simple, c'est la douleur. Le maître symptôme pour la rhumatologie, c'est la douleur. Et les gens viennent voir le rhumatologue parce qu'ils ont mal quelque part.
Et la douleur est depuis peu reconnue, en fait, comme étant
Alors,
quelque
la
chose
douleur
d'important dans
est
le domaine de la
bien
médecine.
Entendu depuis toujours, mais on cherche depuis peu. Enfin, depuis peu, on a conscience qu'il faut, par tout moyen, soulager la douleur. mais avant de la soulager, il faut en reconnaître l'origine. C'est pourquoi c'est une spécialité qui est assez, à mon avis, compliquée. On pense parfois que c'est simple. Au début, il y a de nombreuses années, le rhumatologue était considéré comme un simple super rebouteux. En réalité, on se situe aux confins de la médecine interne et je crois qu'il faut avoir une large expérience de médecine générale pour bien exercer la rhumatologie. Alors, l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est à la fois simple et compliqué. D'abord, c'est venu pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Un monsieur Steele, qui avait 15-16 ans, a eu mal au cou. Il a eu l'idée de tendre une corde entre deux arbres, à 10 ou 15 cm du sol, de mettre un coussin sur la corde, et puis d'appuyer son cou sur cette corde qu'il a laissé osciller, et il s'est laissé bercer comme ça, ce qui a entraîné une espèce de massage, manipulation de sa colonne cervicale. Il s'est relevé, il n'avait plus mal. Alors ça lui a donné à penser que, lorsqu'on a un mal quelque part, il pouvait y avoir un dérèglement des structures musculaires quelque part, à l'origine des douleurs, et qu'il suffisait de faire une manipulation. Une modification locale, des structures locales, pour guérir. Il détestait les médecins, ce monsieur Steele. Il les détestait d'autant plus, et on attend à la fin du XIXe siècle, que 3 de ses enfants étaient morts de méningite, sans qu'on puisse les aider en quoi que ce soit. Donc il s'est dit, finalement, l'organisme peut, si on lui donne les moyens, se défendre contre la maladie, et on porte en soi la possibilité d'une auto-guérison.
Une auto-guérison.
Et c'est en agissant sur la mobilité des différents tissus, des muscles, des aponevroses, la position des vertèbres, que l'on arrive à rétablir l'équilibre du corps. Et une fois qu'on a rétabli l'équilibre du corps, vous allez guérir. Et cela uniquement par les mains, sans utiliser de médicaments. Donc l'ostéopathe, c'est quelqu'un qui cherche à vous guérir en prenant en compte l'ensemble de votre organisme. Un dérèglement qui se situe à un point quelconque, par exemple un mal de cou peut être lié à un dérèglement au niveau de la colonne lombaire. Inversement, un mal de dos peut être lié à une mauvaise position des épaules.
Donc vous voulez dire qu'en fait, le mal en question, ce n'est qu'un symptôme de quelque chose.
La douleur est un symptôme qui provient d'un dérèglement dans le fonctionnement des tissus, dans l'harmonie du corps. On dit qu'il y a une approche holistique, c'est-à-dire globale, de l'individu, et qu'il ne faut pas s'attacher à un point douloureux précis, mais prendre l'individu dans sa globalité et dans le fonctionnement harmonieux des différents segments du corps.
Mais alors, les ostéopathes, je suppose, ne prétendent pas soigner toutes les maladies, car on ne peut pas tout soigner avec les mains.
Alors voilà, c'est là où est le problème. C'est que l'ostéopathie donc, est devenue une discipline qui prétend pouvoir redresser pratiquement toute la pathologie. Bien sûr, pas les infections, on ne va pas traiter la tuberculose par l'ostéopathie. Mais tous les dérèglements, par exemple des douleurs pelviennes, peuvent être traités. À un moment donné, ils voulaient traiter les douleurs des règles en faisant quelques manipulations au niveau de l'abdomen ou des douleurs gastriques en manipulant, en déplaçant le côlon ou en agissant sur le foie en pensant qu'on rétablit des frictions normales entre les différents organes. Donc c'est là où il y a un problème. Ils pensent aussi que lorsqu'on agit sur la colonne vertébrale, on va modifier le système sympathique, le système parasympathique, qu'on va favoriser la circulation sanguine au plan artériel, au plan veineux, que l'on peut agir aussi sur la circulation lymphatique. Ils n'ont pas tort pour la circulation lymphatique parce que ce sont eux qui se sont beaucoup intéressés au drainage lymphatique, qui est une technique maintenant reconnue pour traiter certains œdèmes.
Alors, nous aurons peut-être l'occasion de reparler plus en détail de cette fameuse discipline de l'ostéopathie. Avant, juste pour terminer notre petit point de vocabulaire, la chiropraxie, qu'est-ce qu'elle apporte de différent par rapport à l'ostéopathie? Et puis, vous avez utilisé un mot qu'on l'utilise beaucoup dans le jargon, c'est rebouteux. Alors, rebouteux, c'est correspond à l'ostéopathe?
Non, le rebouteux correspond... Enfin, il utilise aussi ses mains pour traiter les personnes. C'est une formation, c'est une auto-formation. Il n'y a pas de philosophie particulière, si ce n'est que le rebouteux considère que vous êtes déplacé un os ou un segment articulaire et il essaye de le remettre en place en manipulant comme il peut, mais sans qu'il y ait une théorie structurée. Alors que dans l'ostéopathie, il y a une théorie structurée, c'est des gens qui croient à un ensemble de phénomènes qui s'enchaînent les uns les autres. Alors les chiropracteurs. Les chiropracteurs, là, on arrive à M. Taylor, toujours à la fin du XIXe siècle, qui, lui, est un guérisseur au départ.
Et c'est un élève de Steele, non ?
Non, je crois pas. Enfin, bon. J'ai pas vu cette notion, c'est possible. Enfin, lui, c'était un guérisseur qui pensait que les douleurs étaient liées à un dérangement local. Et en particulier, le mal de dos, qui est très fréquent. Mais c'est très simple, le mal de dos était dû à une subluxation d'une petite articulation postérieure entre les vertèbres qu'on appelle les apophyses articulaires. Il suffisait qu'il y ait un déplacement de ces petites articulations, de ces deux fragments d'articulation, pour que l'on ait mal, et pour guérir cela, il fallait manipuler le segment vertébral douloureux pour remettre en place ces articulations interapophysaires postérieures. Et au cours de cette manipulation, il y avait un clac, et ce clac était salvateur. Donc, pas le malade, il y avait une manipulation, craquement et guérison. Alors, le chiropracteur, lui, agit, manipule, en allant au-delà de la mobilité maximale de l'articulation, mais sans rompre les structures qui enveloppent l'articulation, qui est la capsule. Alors que l'ostéopathe va manipuler dans un rayon d'action beaucoup plus petit, très vite, une manipulation à haute vélocité et de faible amplitude, dans les limites de la fonction articulaire, alors que le chiropracteur manipule un peu plus violemment et avec une mobilité plus grande. Donc il y a une différence dans le type de manipulation. Et les manipulations faites par les ostéopathes, alors il y a des dizaines de techniques de manipulation. Ça peut être simplement une petite pression, un petit massage léger, et actuellement on s'oriente de plus en plus, me semble-t-il, pour les ostéopathes, vers des manipulations assez légères,
des massages,
une sorte de massage localisé, de façon à éviter les inconvénients d'une manipulation brutale.
Alors, nous allons parler effectivement maintenant plus en détail de l'ostéopathie. Venons-en à notre sujet phare. L'ostéopathie en France commence à arriver réellement dans les années 80 et est intégrée dans les facultés de médecine à la base. Donc, au départ, parce qu'on vous sent quand même un peu sceptique, hein, tout en décrivant quand même l'ostéopathie, les massages légers. Voilà, on imagine bien le rapport qu'il peut y avoir un peu conflictuel avec votre discipline à vous, la rhumatologie. Donc, ça arrive dans les années 80 et enseigné à la base à des médecins, en tout cas des futurs médecins en faculté de médecine.
Oui, alors, en ce qui concerne les médecins, il est vrai qu'il y a deux types de traitements manuels qui peuvent être pris en compte. Il y a d'abord les manipulations. Alors vous savez qu'en France, les manipulations ont été lancées par Robert Maigne.
Oui.
Mais en dehors de toute philosophie, c'est-à-dire que cette prise en charge globale, ce retentissement d'un dérangement vertébral sur l'ensemble de l'organisme n'était pas pris en compte. Maigne s'intéressait uniquement et surtout au dérangement vertébral, c'est-à-dire aux douleurs de dos, ou aux douleurs projetées un peu à distance, par exemple des gens qui avaient mal, douleurs en ceinture, à la taille, un peu déplaisantes, et il a eu le mérite d'attirer l'attention sur le fait que ces douleurs pouvaient provenir d'une compression d'un nerf situé au-dessus, et en agissant sur un segment dorsal, on pouvait guérir une douleur plus bas située. Donc ça, c'est un élément intéressant. Donc lui a introduit le traitement manuel en médecine, et dans le phénomène de mal de dos. À côté de cela, il y a eu l'introduction dans l'université de Bobigny,
oui,
par le doyen Cornillot, d'un certain nombre de
Pierre
médecines
Cornillot,
un peu particulières, des médecines dites alternatives,
mm-hmm,
ou encore douces, bien qu'elles ne soient pas toutes très douces. L'homéopathie, l'acupuncture, les manipulations vertébrales et l'ostéopathie. Alors, ce qui a surtout été avalisé, c'est la médecine manuelle pour les médecins. Mais il y a eu aussi, dans cette faculté, l'introduction des notions d'ostéopathie, cette médecine ostéopathique qui est une prise en charge des malades avec une vision globale de l'individu, une vision holistique.
Donc à la base, les personnes qui voulaient être ostéopathes étaient déjà médecins généralistes, avaient une connaissance approfondie du corps humain.
Oui, c'était des médecins qui voulaient exercer. D'abord, ils étaient médecins et ensuite, ils se spécialisaient pour exercer la médecine de façon particulière, en utilisant uniquement les mains, puisque c'est ce qui définit l'ostéopathe et le chiropracteur sont des gens qui ne travaillent qu'avec leurs mains. Ils peuvent regarder des radiographies, bien sûr, des examens de laboratoire éventuellement, mais ils n'utilisent pas de médicaments. C'est la main qui reconnaît le mal, c'est la main qui le localise et c'est la main qui guérit.
Je vous propose alors de marquer une courte pause et on va se retrouver tout de suite après pour aborder alors le côté critique, hein, cette fois-ci, la position de l'Académie nationale de médecine qu'on sent déjà poindre dans votre argumentation. À tout de suite.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Joël Menkès, membre de l'Académie nationale de médecine et qui a participé à l'écriture d'un rapport assez critique concernant l'ostéopathie et le fait que les ostéopathes pourraient toucher les patients sans avoir de prescription médicale au préalable. Joël Menkès, j'aimerais savoir quand même votre position à vous. Est-ce que vous rejetez en bloc cette méthode de traitement qu'est l'ostéopathie ou est-ce que vous y voyez quand même des aspects positifs puisque la plupart des Français qui peuvent nous écouter là, au moment où nous parlons ont eu affaire de près ou de loin dans leur famille à soit des ostéopathes ou des rebouteux, le mot que vous utilisiez juste avant de faire notre pause.
Oui, je crois qu'il ne faut pas rejeter complètement cette méthode de traitement et de prise en charge des phénomènes douloureux. Il y a des éléments positifs. Ce qui est négatif dans ce problème de l'ostéopathie, c'est cette philosophie qui entoure la méthode. Cette philosophie et ces principes qui consistent à dire qu'à partir d'un dérangement localisé, en particulier d'un dérangement segmentaire de la colonne vertébrale, et à partir de la correction de ce dérangement, on peut agir sur n'importe quel trouble de la personne, et on peut agir à distance. Mais il est indiscutable que chez des personnes qui ont une contracture vertébrale, une douleur vertébrale localisée, qu'un traitement qui vise à obtenir une décontraction par une manipulation localisée peut être bénéfique. Le gros problème, c'est la difficulté de démontrer l'efficacité réelle, scientifique, de cette méthode. Il y a eu d'innombrables publications qui ont essayé de prouver scientifiquement que ce que faisaient les ostéopathes et les chiropracteurs avait une réalité scientifique.
Alors ça c'est intéressant, est-ce que vous avez des chiffres? Je crois qu'il y a eu pas mal de recherches sur la lombalgie.
Tout à fait, la lombalgie est un mal qui frappe un grand nombre de personnes de tous âges. C'est un des inconvénients les plus fréquents. Et là vous touchez du doigt une des difficultés parce que la lombalgie, dans 80% des cas, c'est un état transitoire qui va guérir tout seul. Par exemple, dans la lombalgie aiguë, on disait il y a quelques années, qu'il fallait mettre les gens au repos. Et puis on s'est aperçu qu'en fait non, quand on a un lumbago, une lombalgie aiguë, il ne faut pas se mettre au repos, il faut essayer de bouger le plus possible. Et plus on se repose, moins on guérit vite. Et plus on se repose, plus on a de risque de redevenir lombalgique de façon chronique, c'est-à-dire de souffrir pendant plus de 3 mois. Donc, 90% des cas, les choses guérissent.
Donc oui, parce que si on parle de lumbago, de lombalgie aiguë, c'est parce que les ostéopathes disaient qu'ils pouvaient guérir, en l'occurrence, ce mal.
Alors, les études qui ont été faites, donc on a essayé de prouver que c'était la réalité. Mais vous comprenez bien que quand vous adressez à une maladie qui peut guérir spontanément, d'autre part à une maladie où les facteurs psychologiques sont très importants. Parce que lorsqu'on a brusquement un mal de dos, c'est très angoissant. On se demande qu'est-ce que je vais devenir. Quand vous n'arrivez pas à mettre un pied devant l'autre parce que vous avez un lumbago aigu, vous dites est-ce que je vais être paralysé? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'origine de cette douleur? Vous avez dans la famille quelqu'un qui avait mal au dos, on lui a dit que c'était rien, puis en fait il avait un cancer des os. Donc tout défile dans votre tête. Le fait d'être rassuré par quelqu'un, par un praticien, quel qu'il soit, le fait de laisser le temps passer, ça guérit presque tout le monde. Alors quand vous voulez affirmer qu'un traitement fonctionne réellement, c'est ce qu'on appelle la médecine basée sur des évidences. Il faut faire des études dites contrôlées, c'est-à-dire on prend un groupe de personnes malades à qui on met un traitement X, que l'on compare à un autre groupe de personnes ayant exactement la même maladie, mais qui sont traitées par un médicament inactif qu'on appelle le placebo.
Le placebo.
Alors c'est relativement facile à faire avec un médicament, mais quand il s'agit d'un traitement physique, extérieur, c'est très difficile. C'est très difficile de faire semblant de faire une kinésithérapie ou une manipulation ou une technique de rééducation. Et puis, la personne avec qui vous êtes en contact joue beaucoup. L'empathie que vous avez, la sympathie que vous avez pour la personne qui vous prend en charge intervient beaucoup. Vous croyez, vous ne croyez pas ce qu'elle vous dit.
Donc vous voulez dire qu'en fait, c'est plus le fait d'aller voir un praticien, ne serait-ce que de le voir, c'est un peu comme quand on va chez le dentiste, hein, au moment où on attend dans la salle d'attente, on n'a plus mal aux dents. Vous voulez
oui,
dire
on
que
va déjà
y a cet
mieux.
Effet-là.
Et que si vous avez quelqu'un d'antipathique en face de vous, vous allez 10 fois pire. Et c'est vrai que ça joue énormément.
Et vous pensez qu'il y a, si vous faisiez un pourcentage, il y a 80% de la guérison qui va de cet effet placebo de la main de l'ostéopathe?
Tout dépend bien entendu de la cause. Et c'est là un des problèmes qui est soulevé par l'orientation actuelle de l'ostéopathie vers une approche en première intention. Si la douleur est liée à une simple irritation locale, un petit déchirure discale, on sait que ça va guérir dans 80% des cas. Même une petite hernie discale, ça guérit spontanément. Une sciatique par hernie discale, ça finit par guérir dans presque tous les cas.
Mais les personnes qui sont atteintes de ces maladies, enfin en tout cas qui souffrent, hein, hernie discale, ça fait quand même pas du bien. Quand vous leur dites que ça finira par guérir un jour, je suppose quand même qu'ils préféraient être guéris tout de suite.
Tout à fait, mais nous avons des moyens de leur faire prendre leur mal en patience, de les soulager par les médicaments. Mais c'est vrai que beaucoup d'études ont montré que, ostéopathie ou chiropraxie, que dans les douleurs, dans le mal de dos aigu, on peut obtenir des résultats intéressants par rapport à rien du tout. Il y a une démonstration d'une efficacité, ça c'est indiscutable. Il y a aussi une démonstration d'une efficacité dans certaines douleurs chroniques de la colonne vertébrale, dans certains mal de dos qui évoluent de façon prolongée. La manipulation peut soulager. Si c'était toujours négatif, il n'y aurait personne qui irait consulter les ostéopathes ou les chiropracteurs. C'est qu'ils arrivent à soulager un certain nombre de malades, ça c'est indiscutable. Mais ce qui n'est pas prouvé à l'heure actuelle encore, malgré une quantité d'études qui ont essayé de comparer avec placebo, ce qui n'est pas prouvé, c'est que la manipulation ou le traitement ostéopathique est supérieur au traitement habituel médical, médicamenteux.
Alors, venons-en alors à ce texte législatif. Pourquoi, finalement, on va rédiger ce décret qui va faire que les ostéopathes n'auront plus besoin de réaliser des manipulations sans prescription, si ce n'est pas une discipline médicale à part entière? Pourquoi, selon vous, on va dans leur sens si c'est autant décrié?
Alors, la nécessité, je crois qu'on est dans une situation un petit peu difficile parce que on a laissé s'installer des écoles d'ostéopathie qui n'avaient pas en fait de reconnaissance officielle. Ces écoles sont des écoles privées et payantes et les étudiants payent de 6 000 à 7 000 euros par an pour leur formation. Et les formations vont de 3 ans à 6 ans selon les écoles.
un peu comme les écoles de kinésithérapeutes ?
Un petit peu, encore que les écoles de kinésithérapeutes sont encadrées, qui sont choisies après concours, etc. Donc, ces diplômés,
oui,
avec des diplômes non reconnus, se sont installés. Il n'y a qu'à se promener dans les rues de Paris pour voir fleurir les plaques de cabinets d'ostéopathes, non médecins. Donc il y avait une situation un petit peu difficile. D'autre part, il y a eu beaucoup d'agitation à l'Europe, d'agitation politique, pour faire reconnaître des médecines qui n'étaient pas des médecines traditionnelles, et notamment l'ostéopathie et la chiropraxie. Donc en 2002, il y a eu une loi qui a été votée reconnaissant la pratique ostéopathique et chiropraxique. À ce moment-là, il fallait faire des décrets d'application.
Bien sûr.
Et c'est au moment de faire ces décrets d'application que l'Académie a été consultée et nous avons attiré l'attention sur deux choses. D'une part, c'est que les pratiques ostéopathiques et même chiropractiques n'avaient pas de reconnaissance scientifique supérieure aux autres techniques de traitement. Elles existent.
Est-ce qu'ils le prétendaient ? Les ostéopathes ne le prétendaient pas forcément ?
Ils ne prétendent pas forcément d'être supérieurs, mais ils prétendent d'être au moins égales et d'avoir
une légitimité,
une compétence reconnue. Et d'autre part, ce qui nous importait le plus, c'est que au plan santé publique, il nous paraissait difficile que des personnes qui n'ont pas une formation complète de médecin puissent voir des malades en première intention. Alors, on nous dit, oui, mais ils seront habilités à voir en première intention, c'est-à-dire sans examen par un médecin diplômé, ils seront autorisés à voir des personnes qui ont des troubles fonctionnels. Sans définir d'ailleurs ce que c'est que ces troubles fonctionnels. Donc on imagine que sous le nom de troubles fonctionnels, ils considèrent que ce sont des personnes qui ont des douleurs qui ne correspondent pas à des maladies importantes. Mais c'est là où est toute la difficulté. Parce que pour dire que quelqu'un a une douleur qui ne correspond pas à quelque chose d'important, il faut véritablement avoir une expérience clinique qui, elle, doit être importante. Moi, je trouve que c'est la chose la plus difficile. Ce que j'ai toujours dit à mes étudiants en stage de rhumatologie ou en formation de rhumatologie, le plus difficile, c'est de dire à quelqu'un qu'il n'a rien de grave ou qu'il n'y a rien d'important ou que c'est uniquement un phénomène douloureux passager. Parce que derrière des phénomènes douloureux apparemment banals peuvent se cacher des maladies importantes. Alors vous me direz, mais c'est tout à fait rare et l'ostéopathe va reconnaître tout de suite qu'il y a une chose inquiétante. C'est vrai que avec de l'expérience, on reconnaît tout de suite si une chose est grave ou pas grave. Pour les personnes qui viennent consulter pour des phénomènes douloureux, moi j'avais une dichotomie, grave ou pas grave. Mais c'est de dire pas grave, ça nécessite une expérience considérable.
Donc vous êtes partisan pour que ces ostéopathes exercent à partir du moment où les médecins leur envoient des patients ?
Absolument, je considère que l'ostéopathe, même s'il nous dit qu'il a été formé au diagnostic, formé à reconnaître des pathologies difficiles, en réalité, il est surtout formé à étudier les problèmes de colonne vertébrale, les problèmes de manipulation, les problèmes de retentissement entre la manipulation et le fonctionnement des viscères, et il n'a pas l'expérience de la pathologie générale. Et cette expérience de la pathologie générale est indispensable pour dire si quelqu'un a ou n'a pas une maladie ennuyeuse. Et les exemples, mais il y en a des quantités de gens qui viennent vous voir avec des choses apparemment banales et qui en réalité...
Par exemple.
Ah, vous voulez un exemple?
Bien sûr.
Un exemple qui me touche de près. Le beau-père d'une de mes filles était dentiste. Il me téléphone un jour en disant j'ai mal au dos, et avec une douleur qui descend dans la jambe. Sciatique. Sciatique chez un dentiste, ça c'est tout à fait banal, parce que le dentiste se penche sur le fauteuil, dans des positions invraisemblables, et ils ont tous mal au dos à un moment donné. Donc, je l'examine, je trouve rien de particulier. je lui fais faire des radiographies qui sont strictement normales, des examens sanguins qui sont strictement normaux, mais je suis quand même inquiété par le caractère des douleurs, un peu intenses, plus intenses qu'à l'habituel, plus persistantes, ne régressant pas avec des traitements antidouleurs ou anti-inflammatoires, et je lui fais faire un examen au scanner. Examen au scanner qui est supposé nous renseigner sur la structure des vertèbres et des disques intervertébraux. Cet examen au scanner ne montre absolument aucune hernie discale et aucune lésion osseuse.
Il n'avait rien ?
Alors, j'aurais pu conclure, il n'avait rien et l'envoyer chez un ostéopathe. Et en fait, heureusement, j'ai eu l'idée de lui faire faire un examen en résonance magnétique. Et en résonance magnétique, on a vu des petites taches blanches sur ses os qui correspondaient à des métastases osseuses.
Un cancer des os.
C'était un cancer des os. Disséminé, avec des toutes petites lésions qui entraînaient des réactions inflammatoires, donc des contractures douloureuses. Et pour prouver la réalité,
scanner,
il a fallu faire donc cet examen par résonance magnétique et confirmé par une biopsie osseuse. Bon, bien entendu, c'est un cas particulier.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un exemple malheureux, mais effectivement bien particulier qu'on souhaite exceptionnel.
Il y a comme ça un certain nombre de malades ou des pathologies avec des tumeurs qui se forment à l'intérieur du rachis, de la colonne vertébrale, à partir de la moelle et de ses éléments, qui au début donnent des douleurs qui pourraient être d'apparence banale et qu'il est très difficile de reconnaître. Donc, c'est pour toutes ces raisons, on pense que pour faire de la médecine, il faut être médecin, et que, à partir du moment où on s'adresse à un traitement local, mieux vaut avoir un examen médical préalable.
Alors, juste pour revenir à ce texte législatif, et après nous marquerons une courte pause, pour vous, donc, si on fait un résumé, c'est juste pour que l'on puisse nous mettre à niveau par rapport aux autres pays européens, le fait de laisser les ostéopathes recevoir des patients sans prescription médicale?
Oui, alors, les autres pays. Aux États-Unis, il y a donc une tradition ostéopathique, et une médecine ostéopathique qui s'est développée avec des études qui sont à peu près analogues à celles des médecins de médecine traditionnelle et un diplôme de docteur en ostéopathie. Donc une formation identique à celle des médecins, mais avec une orientation spéciale vers la manipulation, vers cette prise en charge globale du fonctionnement des structures de l'organisme. Donc ça, c'est le choix des individus qui vont dans une école ou dans l'une ou l'autre école.
Et c'est ce qui peut se faire également en France, vu que dans les universités, il y a des modules, pour ceux qui le souhaitent, concernant l'ostéopathie.
Mais à ce moment-là, ces modules sont destinés, en France, c'est un diplôme interuniversitaire, pour des personnes qui ont déjà un diplôme de médecin.
Voilà.
Donc c'est une formation complémentaire.
Une spécialisation ?
Spécialisation, ou disons orientation.
Une orientation.
Orientation. C'est vrai que entre le généraliste qui voit 40 malades en période de grippe par jour et l'ostéopathe qui voit un malade toutes les 45 minutes, les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes. Donc cela intervient aussi dans le choix. Moi, j'ai connu des médecins généralistes qui avaient d'énormes clientèles et qui n'en pouvaient plus et qui se sont orientés vers ces médecines ostéopathiques pour
faire un peu autre chose.
Pour pouvoir respirer.
Mais juste pour revenir sur ce texte législatif, puisqu'effectivement nous venons de faire une petite digression, pour vous, puisque quand même il y a le Conseil National de l'Ordre qui, et vous, donc Académie Nationale de Médecine, vous avez un avis consultatif, mais vous êtes quand même nombreux, vous avez un poids, vous avez des noms prestigieux. Comment se fait-il que malgré donc votre levée de bouclier, ce décret, qui tarde à venir, mais ce décret voit le jour dans les mois à venir?
Bon, je crois savoir que ce décret est au Conseil d'État. Mais il voit le jour parce qu'il y a un poids considérable du public, de l'engouement pour ces méthodes de traitement qui paraissent apparemment tout à fait intéressantes, un peu magiques. On aime bien ce qui est magique. On guérit sans médicaments,
Là, les ostéopathes sont en train de bondir sur leur chaise, hein, si ils ont, vous assimilez leur discipline à de la magie.
Un peu. Il y a un peu de magie, mais dans la médecine, il y a de la magie. La médecine sans magie, c'est épouvantable. Hein. Vous savez, la médecine, c'est un art. Et on fait tous un peu de magie pour arriver à guérir nos malades. En plus du médicament. Un médicament donné sans magie, c'est effrayant.
Mais comme l'ostéopathie, il n'y a pas de médicament.
Alors donc,
c'est de la magie
main,
pure.
C'est la main qui est magique. C'est la main et la prise en charge. Donc la main qui reconnaît le mal et la main qui vous soulage.
Donc en fait, pour vous, ce décret vient suite en fait à une pression de la population, de l'engouement général pour cette discipline.
Non, le décret là, est devenu obligatoire dans la mesure où il y a eu une loi qui a été votée par le Parlement. Alors vous me direz, pourquoi le Parlement a-t-il voté cette loi? Vous savez, il y a toujours... les gens ont une attitude toujours ambivalente vis-à-vis des médecins, des médecins de médecine traditionnelle. On a son médecin, mais on n'aime pas les médecins en général. Son médecin, c'est un bon médecin, c'est un gentil médecin, et les autres sont des épouvantables qui vous font des tas d'horreurs. C'est vrai que la médecine est devenue un peu difficile, qu'il y a des médicaments puissants, mais avec des tas d'effets secondaires. Vous me donnez un médicament pour calmer une douleur, un anti-inflammatoire, vous retrouvez avec des douleurs d'estomac ou une hémorragie intestinale. Traitement efficace, traitement puissant, mais traitement avec effet secondaire. Et puis, à mesure que la médecine devient plus technique, elle a de moins en moins le temps de s'occuper des états d'âme des patients. Donc, lorsque le malade arrive avec un mal de dos, qu'il va dans une consultation d'un service hospitalier spécialisé, et qu'il est vu en 10 minutes, et qu'on ne répond pas à ses questions, qu'on lui demande des radiographies, qu'on lui donne un traitement qui sera plus ou moins bien supporté, il n'est pas content. Donc, on lui dit, mais non, mais va voir un tel ou une telle qui est ostéopathe, où là, il sera reçu agréablement, il pourra parler de tout ce qui l'ennuie pendant 45 minutes, il sera examiné des pieds à la tête, déshabillé, on regardera ses radiographies tranquillement, il a une impression d'examen convenable et d'une prise en charge.
Bien sûr, parce qu'on aura passé plus de temps avec lui, on l'aura écouté.
Bien sûr.
Peut-être l'écoute qui manque actuellement au médecin, puisqu'il a beaucoup de consultations, avec beaucoup de rendez-vous qui se suivent, et écourte les séances.
Donc il y a une demande. Vous savez, le simple fait de parler avec les gens améliore beaucoup de choses. Je me souviens, à la suite d'une émission, une télévision sur le mal de dos, une dame était venue me voir en consultation depuis Chambéry. Elle prend le TGV depuis Chambéry, elle avait mal au dos, c'est une douleur chronique du fait de lésions arthrosiques pour lesquelles on ne trouvait pas grand-chose, mais je lui ai expliqué ce qu'il en était, et j'étais très content qu'elle m'écrive après en me disant, vous savez, j'ai gardé le temps nécessaire pour faire la rassurer, l'examiner comme il faut, et j'ai été très heureux de recevoir une lettre me disant, mais vous savez, je ne regrette pas d'être venu depuis Chambéry, vous m'avez vraiment soulagé en m'expliquant ce qu'il en était.
Et en lui disant que sa douleur existait réellement. Parce que combien sont les personnes à qui on leur dit, qui ont réellement mal, et comme on ne trouve pas, comme vous repreniez l'exemple de cette personne qui finalement avait un cancer des os, comme on ne trouve rien dans les radios, dans les scanners, on leur dit finalement, mais non monsieur, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Là, en l'occurrence, en parlant avec les personnes, il y a de l'empathie.
Absolument. Alors là, vous évoquez quelque chose qui est une des plus grandes difficultés encore de la rhumatologie. Monsieur, vous n'avez rien. Et ça me revient, c'est mon grand âge fait que j'ai beaucoup d'histoires. Un malade qui, lui, vient de Cannes. Il est dans une situation financière absolument épouvantable. Il a été mis en faillite. Il a mal au dos, il a des douleurs de dos. Il a été opéré d'une hernie discale, ça ne l'a pas soulagé. Il souffre de plus en plus. Et il nous dit qu'il a des douleurs épouvantables, il est très déprimé. On l'examine, on essaye de trouver la raison de ses douleurs. Tout est négatif, si ce n'est qu'il avait une petite particularité à l'examen du liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire du liquide qui est dans la colonne vertébrale autour de la moelle, mais pas suffisante pour aller plus loin. Et on le montre à notre psychiatre, qui nous dit, oui, il est très déprimé, ça suffit à expliquer les douleurs. Et le temps passe, et on apprend qu'il a un neveu qui est un neurologue à la Salpêtrière. Il retourne voir son neveu, on refait le prélèvement de liquide, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a des cellules anormales dans ce liquide, et il avait quelque chose de très rare, qui est un cancer des méninges, des enveloppes méningées. Ce n'était pas une méningite, mais c'était un cancer qui s'est développé à partir des cellules des enveloppes méningées.
Et qui se traduisait par son mal de dos.
Un mal de dos, et qui, vous voyez, qui avait fait penser que c'était quelque chose de psychologique.
Donc en fait, le psychiatre qui va dire que c'est la dépression qui est la cause de son mal de dos, c'était plutôt l'inverse en l'occurrence. C'était son mal de dos qui le plongeait dans une dépression.
Il y a des réactions des deux côtés. Donc il faut être extrêmement, extrêmement prudent. Et c'est pour ça que dans ce rapport, on a voulu insister sur la difficulté de la prise en charge des personnes qui ont des phénomènes douloureux.
Alors je vous propose de marquer une seconde courte pause, Joël Menkès, et on se retrouve tout de suite après pour parler plus en détail du rapport de l'Académie nationale de médecine. A tout de suite.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Joël Menkès, avec qui donc nous terminons notre émission sur l'ostéopathie. On l'aura bien compris tout au long de ces deux premières parties, l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l'ordre se prononcent en défaveur de l'ostéopathie sans prescription médicale. Vous avez donc publié, Joël Menkès, avec plusieurs autres membres de l'Académie nationale de médecine, un rapport qui critique ce décret à venir. La question que j'aurais envie de vous poser, Joël Menkès, c'est savoir si, au sein de l'Académie nationale de médecine, il existe des médecins ostéopathes, qui auraient la double discipline.
Effectivement, les ostéopathes ont leur propre académie, mais dans l'Académie nationale de médecine, il n'y a pas de médecins ostéopathes. Cependant, lorsque j'étais étudiant chez monsieur le professeur Florent Coste, qui était un membre de l'Académie de médecine autrefois, dans les années 50, j'avais été très impressionné de voir qu'en passant la visite auprès d'un malade qui avait mal au dos, il a fait, lui, professeur Coste, un des premiers titulaires de la chaire de rhumatologie, une manipulation au lit du malade. Donc, la manipulation vertébrale, c'est quelque chose qui est admise comme une possibilité thérapeutique par les rhumatologues. Il y a d'ailleurs, comme vous l'avez signalé, un diplôme de médecine manuelle, un diplôme interuniversitaire. Donc les manipulations peuvent avoir un intérêt. Pour moi, il n'est pas majeur, mais ça peut avoir un intérêt. Le problème de l'ostéopathie, c'est toute cette philosophie qui entoure la prise en charge manuelle manipulative du malade. Cette philosophie holistique globale. Les chiropracteurs, les choses sont un peu différentes puisqu'il s'agit à un niveau segmentaire sur un dérangement mécanique et ils ont tendance actuellement à se débarrasser de la philosophie de départ qui est ce dérangement interapophysaire postérieur, la remise en place de la vertèbre au profit d'actions basé sur des notions physiologiques, neurologiques modernes. Et il y a tout un groupe de chiropracteurs qui sont des docteurs en sciences, des PhD, comme on dit aux États-Unis et en Angleterre, et ces chiropracteurs scientifiques ont un journal qui est indexé, un journal anglo-saxon, de thérapie manipulative et physiologie, au niveau scientifique, ils essayent de comprendre et de prouver l'efficacité de la manipulation et son mécanisme, mais en dehors de toute philosophie abusive.
Alors, venons-en à ce rapport un peu plus en détail. Il y a trois points que l'on peut retenir dans ce rapport. Je vais donc le citer.
Oui.
L'ostéopathie est enseignée dans les UFR de médecine, bien qu'elle ne saurait avoir en elle-même aucune valeur scientifique et certainement pas préventive, notamment chez le nouveau-né. Alors, le nouveau-né, on en a parlé peut-être deux minutes au cours de notre émission, peut-être qu'on pourrait reparler, resituer ce que l'ostéopathie dans le cadre des nouveau-nés.
Alors, actuellement, à ce qu'on nous a dit, on voit proliférer dans les cliniques d'accouchement et les services obstétriques des ostéopathes qui prennent en charge les nouveau-nés qui font des manipulations pour améliorer la forme du crâne ou diminuer certaines contractures.
Améliorer.
Pour modifier la forme du crâne et améliorer les déformations qui peuvent se produire à l'occasion de l'accouchement. Cela sans aucune valeur scientifique, sans aucune confirmation scientifique.
Alors, un autre terme, c'est que l'ostéopathie ne serait pas être préventive. Actuellement, l'ostéopathie est utilisée comme quelque chose de préventif. Au vu de ce que nous avons pu déjà dire tout au long de l'émission, c'était plutôt pour soigner, il y avait quelque chose de curatif.
Mais elle peut être préventive dans la mesure où, en vous examinant, elle met en évidence un dysfonctionnement segmentaire localisé. Et en agissant sur ce dysfonctionnement localisé par la palpation, on prévient l'apparition de douleurs.
Alors, le deuxième point, qui en fait va dans la suite, tout simplement, du rapport, et c'est ce que l'on disait tout au long de cette émission, mais pour aller dans le sens du rapport, l'ostéopathie doit être réservée au corps médical, seul capable d'établir un diagnostic, en se réservant l'exclusivité des manipulations vertébrales, car trop dangereuses selon elle. Alors, est-ce qu'il y a des cas où des ostéopathes, en faisant des manipulations, on fait l'effet inverse, qui est plutôt que de soigner ou de trouver un mal, vont provoquer un mal supplémentaire au patient qui vient le voir.
Oui, alors là, c'est un des problèmes de la manipulation en général, l'ostéopathie en particulier, c'est que ce n'est pas toujours un traitement inoffensif. Je prends l'exemple d'une hernie discale. Une sciatique par hernie discale, compression des racines du nerf sciatique par une hernie entre deux vertèbres lombaires du disque. Au cours de la manipulation, il peut y avoir une rupture de ce disque avec un fragment qui part à distance au moment où on manipule la colonne vertébrale et qui entraîne une paralysie. Ça, je l'ai vu récemment chez une jeune fille qui faisait du tennis au niveau professionnel, qui a eu une sciatique que son père a confiée à un ostéopathe en première
intention. Il existe des ostéopathes du sport, alors est-ce que c'était dans ce cadre-là?
Oui. Dans ce cadre-là, l'ostéopathe a fait une manipulation et elle s'est retrouvée avec une sciatique paralysante, c'est-à-dire une impossibilité de relever le pied. Et le tennis était terminé.
Mais ça reste des cas exceptionnels? Est-ce que l'on a des chiffres, même si je suppose que ça doit être très compliqué de savoir si la raison est une mauvaise manipulation, la raison d'une paralysie en l'occurrence.
C'est vrai que ces accidents sont rares. Ils sont rares pour des centaines de milliers de manipulations, 2-3 accidents. Mais ils ne sont pas toujours déclarés. Donc on ne sait pas exactement quelle est la fréquence des aggravations après manipulation ou des incidents qui sont des incidents qui sont mineurs, c'est-à-dire qui n'entraînent pas de conséquences définitives. Parce que là, la paralysie du pied dont je vous ai parlé a fini par régresser au bout de quelques mois. Mais il y a des publications qui prennent en compte des complications de manipulation ostéopathique. Aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs publications faites par des neurochirurgiens qui ont répertorié des compressions. La queue de cheval après manipulation, la queue de cheval, ce sont les racines qui naissent à la fin de la moelle et à l'étage lombaire et qui donnent une paraplégie lorsqu'il y a une compression et des troubles urinaires et qui nécessitent une intervention chirurgicale. Donc il peut y avoir ce type de complications. Il y a surtout des complications après manipulation de la colonne cervicale. C'est pour ça que dans le projet de décret, Les manipulations cervicales sont interdites en première intention. Et ces complications se voient en particulier chez les femmes jeunes et sont
avant 50 ans
et sont liées à des lésions de l'artère vertébrale, qui est une artère qui passe entre les vertèbres cervicales et qui va irriguer la partie postérieure du cerveau. Alors là, ce sont des complications très graves avec des paralysies et des troubles de l'équilibre qui sont très embêtantes.
Alors, troisième point du rapport, toujours dans la suite, l'ostéopathie doit être réservée aux kinésithérapeutes en ce qui concerne les autres techniques manuelles. Donc vous pensez que les kinésithérapeutes seraient les plus à même de faire ce que font actuellement les ostéopathes de par leurs études ?
Oui, nous pensons que les kinésithérapeutes sont formés à la prise en charge de personnes qui ont des problèmes douloureux de la colonne vertébrale ou des articulations. Et qu'ils peuvent être formés à la manipulation, aux techniques de manipulation. Et qu'à partir de leur enseignement, de leur diplôme de kinésithérapie, ils peuvent avoir une formation complémentaire qui autorise la pratique de l'ostéopathie ou de la chiropraxie. Mais toujours après, non pas en première intention, mais sur prescription médicale. Ce qui nous choque beaucoup, c'est la première intention.
La première intention ?
C'est-à-dire l'intervention de ces personnes non médecins sans prescription médicale.
Alors, pour terminer cette émission, je terminerai sur une des phrases, une question qui se pose dans le rapport. Alors, c'est un peu provocateur. Alors, justement, vous allez pouvoir y répondre. Donc, je cite le rapport. En dehors de l'effet sédatif, des massages, des manipulations, il y a un côté effectivement où on prend soin du patient. En dehors de l'effet sédatif, y a-t-il autre chose que cette psychothérapie manuelle ? Vous assimilez l'ostéopathie à de la psychothérapie manuelle.
Il y a, pour une grande part, une psychothérapie manuelle, mais il n'y a pas que ça dans une manipulation. Quand vous avez une crampe au niveau d'un membre, vous faites céder la crampe en allongeant, en étirant le muscle, en tirant sur le muscle qui est rétracté, et c'est très pénible. Et si vous arrivez à tirer sur le muscle qui se contracte tant qu'il peut, vous faites céder la crampe instantanément. On peut concevoir qu'au niveau lombaire, quand on a une douleur lombaire aiguë, il y a une contracture du muscle à un étage donné, et qu'en faisant un mouvement contraire à cette contracture, en étirant le muscle contracté, on fait céder la contracture, donc cette crampe localisée, et on améliore localement. Donc il y a des phénomènes locaux qui interviennent et qui peuvent induire une sédation transitoire, habituellement.
Donc psychothérapie manuelle est
donc,
un terme
psychothérapie, oui, mais aussi action locale de la manipulation, ce qui fait qu'elle garde son succès.
Donc vous ne conseillez pas les personnes qui vont voir des ostéopathes d'aller plutôt voir un psychothérapeute, en l'occurrence.
Parfois.
Vous voulez dire que les disciplines peuvent être les disciplines peuvent être mêlées facilement.
Le psychothérapeute en dernier. Vous savez, une des meilleures kinésithérapeutes avec qui j'ai eu l'occasion d'exercer à l'hôpital Cochin était une jeune femme qui était diplômée de psychologie. Et là, nous avions des résultats extraordinaires dans la prise en charge des malades qui souffraient de la colonne vertébrale. Le mal de dos pris en charge par cette jeune femme qui était diplômée de psychologie et kinésithérapeute, était sensationnel. Et c'est comme ça que j'ai vu défiler toutes les personnes déprimées d'une grande banque, après qu'on ait pu soulager quelqu'un qui devait être promu à un poste important dans cette banque internationale, et qui avait un mal de cou épouvantable, qui ne supportait plus le poids de sa tête. En réalité, c'était l'angoisse d'être amené à un poste extrêmement difficile. Donc, en le prenant en charge...
De prendre la tête de la société.
En le rééduquant, avec un contexte psychologique particulier, il y a été parfaitement soulagé. Et puis, on a vu apparaître comme ça tous les membres du staff. qui avaient quelques douleurs et qui étaient un peu déprimés.
Donc on l'aura bien compris, hein, l'effet psychologique, l'effet
capital.
Physique, voilà, tout est mêlé et bien sûr c'est ce qui fait la complexité de l'être humain. Merci Joël Menkès, je rappelle que vous êtes membre de l'Académie nationale, que vous avez participé au rapport hein, qui critiquait ce décret à venir concernant ces médecins ostéopathes qui pourraient donc pratiquer sans prescription médicale. Je rappelle que vous êtes rhumatologue et que vous avez travaillé à l'hôpital Cochin, vous venez juste d'en parler. Eh bien, merci d'être venu nous voir. Et auriez-vous une petite chose à rajouter pour terminer l'émission ?
Merci pour votre invitation. Je voudrais surtout dire que ce n'est pas tellement une critique des ostéopathes ou des chiropracteurs. On accepte tout à fait leur exercice, mais c'est un rapport qui a attiré l'attention des autorités de tutelle sur le danger de laisser proliférer des jeunes gens et des jeunes filles susceptibles de prendre en charge des malades sans un diagnostic précis.
Alors voilà, vous avez raison de repréciser cela et du coup nous partons sur une note un peu plus positive. Merci beaucoup Joël Menkès et puis à très bientôt pour une nouvelle émission.
Merci.